BW. Droits et libertés.
La semaine du 8 mars est toujours propice à se poser beaucoup de questions. Et la première d'entre elles, peut-être, c'est qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Est-ce qu'il suffit d'avoir un appareil génital féminin pour être ou pour se sentir femme ? Certaines personnes nées dans un corps de femme vous diront qu'elles se sentent plutôt hommes, et vice-versa. Et parfois même qu'ils se sentent ni l'un ni l'autre. En tout cas, ce sentiment d'être née dans le mauvais corps, c'est l'histoire de Raphaëlla, une grecque transsexuelle à qui nous avons tendu notre micro. Et puis, on parlera aussi de la situation en Centrafrique avec un chercheur de l'Institut d'études de sécurité, l'ISS Africa. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. À vous, je peux le confier, honnêtement, j'ai hésité. Est-ce qu'il faut vraiment parler chaque année, aux alentours du 8 mars, de la condition féminine ? D'un autre côté, sur cette antenne, et en particulier dans ce magazine Droits et Libertés, nous faisons la part belle aux femmes tout au long de l'année. Et là, je vous renvoie notamment sur notre site au projet hashtag pas sans elle, avec elle au pluriel. Alors pourquoi pas finalement ? Pourquoi pas parler de celles qui se comptent parmi les femmes malgré le regard des autres ? Je vous emmène donc cette semaine en Grèce à la rencontre de Raphaëlla. Sur le papier, la Grèce fait figure de pays progressiste en ce qui concerne la reconnaissance des droits des transgenres. Depuis 2017, une loi permet aux personnes transsexuelles de déterminer librement leur sexe à l'état civil, même sans se faire opérer. C'est-à-dire qu'une personne née avec un appareil génital masculin, par exemple, peut se déclarer femme si c'est ainsi qu'elle se sent au fond d'elle-même. Bien évidemment, la réalité sociale est très différente et en Grèce comme ailleurs, les personnes transgenres sont victimes de discrimination. Beaucoup n'ont d'ailleurs que la prostitution pour subsister, enfin avant la pandémie, parce que maintenant, leurs conditions de vie se sont encore détériorées. Un dernier coup d'œil au miroir, un petit peu de poudre matifiante sur le visage, de l'ombre à paupières, du mascara, un coup de rouge à lèvres. Se maquiller, ça va vite pour Raphaëlla, comme pour toutes celles qu'ils font tous les jours avant de partir. Ses gestes du quotidien finissent par devenir routiniers. Elle jette un regard à ses cheveux teints en blond qui retombent sur ses épaules. Elle a l'air satisfaite, c'est bon, elle peut y aller bosser, partir au turbin. Ah oui, Raphaëlla est une transsexuelle, je vous l'ai dit, mais elle est aussi travailleuse du sexe à Athènes. Et comme beaucoup de ses congénères, Raphaëlla raconte qu'elle n'a pas vraiment eu le choix.
Ils ne te permettent pas d'étudier ce que tu voudrais pour pouvoir ensuite travailler dans le domaine de ton choix. Tu n'as aucune chance d'être embauchée pour un boulot normal, que ce soit employée ou vendeuse ou que ce soit d'autre. La seule possibilité de gagner ta vie, c'est de te prostituer. Tu es obligé de vendre ton corps pour survivre.
Raphaëlla est originaire d'une petite ville de Grèce et à partir du moment où elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas vivre en accord avec le sexe avec lequel elle était née et qu'elle se sentait femme, sa vie a radicalement changé. À l'école, elle s'est faite harceler, sa famille l'a rejetée, elle n'a jamais pu passer son bac. Maintenant, elle vit dans un appartement surchargé de bibelots dans la capitale avec son chien Mishka et un chat blanc. Raphaëlla raconte que l'État aussi contraint les transsexuels comme elle. La prostitution a beau être autorisée sous certaines conditions en Grèce, les exigences de l'administration sont telles qu'elles sont en fait difficiles à tenir. Alors la plupart des prostituées font le trottoir au noir, comme Raphaëlla, c'est-à-dire sans couverture sociale, sans assurance santé et sans perspective de retraite. Raphaëlla s'apprête à sortir, elle porte un long manteau noir, celui qu'elle enfile pour aller travailler, des chaussures à paillettes et un décolleté profond.
Concrètement, ça veut dire que je vais travailler comme prostituée pendant 30 ou 40 ans, que je vais travailler dans la rue et puis après ça, si je n'ai pas fait d'économie ou prévu quoi que ce soit, Pour mon avenir, eh bien, je mourrais dans une misère absolue, sans aucune aide, sans aucune pension de l'État, rien.
La pandémie de coronavirus a réfréné la prostitution qui a été interdite pour cause de risque de contamination. Mais du fait que les travailleurs du sexe clandestin n'obtiennent de toute façon aucune aide de l'État, leur activité continue en sous-main. Par parenthèse d'ailleurs, la situation qui dure depuis un an a fait se détériorer la situation économique de nombreuses familles grecques dans un pays qui était déjà fortement en crise. Et beaucoup de femmes notamment ont atterri dans la rue parce qu'elles ne s'en sortaient plus, qu'on leur avait coupé l'électricité et elles sont devenues sans abri. La Confédération grecque des personnes transgenres milite depuis des années maintenant pour une meilleure acceptation sociale de ces personnes et elle essaie d'apporter aux plus démunis de la nourriture au moins deux fois par mois. Alors bien sûr, ça ne suffit pas. Et Rafaela se rend régulièrement sur la bretelle de sortie d'autoroute où elle en trouve son manteau de plus en plus souvent.
Je travaille au noir, j'ai très peur et puis je suis un être humain et j'ai peur qu'un de mes clients soit porteur asymptomatique du virus et qu'il me contamine ou que la police m'arrête et me verbalise parce que je suis dehors malgré le couvre-feu.
De coups de vent, ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture dans un joli cadre verni en évidence sur un mur.
Cap à présent sur la Centrafrique où le second tour des législatives devrait se tenir le 13 mars. Régulièrement, les ONG de défense des droits de l'homme et l'ONU appellent les autorités de République centrafricaine à mieux protéger les civils, victimes régulières d'exactions commises soit par des groupes armés qui contrôlent une partie du territoire, soit même par les soldats centrafricains, voire par des casques bleus de la MINUSCA. Des chercheurs de l'ISS Africa, c'est un centre de recherche basé à Pretoria, en Afrique du Sud, ont publié il y a peu une note d'analyse intitulée « Sortir de l'impasse politico-sécuritaire en République centrafricaine ». Ce texte propose des pistes pour sortir de la crise afin que le gouvernement de Bangui rétablisse son autorité sur l'ensemble du territoire national et vienne enfin à bout des rébellions qui mettent le pays à feu et à sang, une stabilisation qui pourrait se faire notamment grâce à l'appui de forces onusiennes. Paul Simon Handy est l'un des rédacteurs de la note d'analyse. Il donne des précisions sur ses recommandations. Il est interrogé par Carole Assignon.
Paul Simon Handy, bonjour.
Bonjour.
Vous présentez des propositions de sortie de crise dans le pays, et cela tant à l'endroit du gouvernement que de la communauté internationale. Pourquoi cette démarche maintenant ?
Alors, la démarche a été dictée par deux choses. D'abord, la tenue des élections en République centrafricaine, les élections groupées de fin décembre 2020, et le chaos, l'insécurité, le regain de tension qui s'en est suivi. On peut ajouter une troisième dimension qui est aussi la réaction de la communauté internationale, les Nations Unies, mais aussi tous les autres partenaires multilatéraux et bilatéraux de la RCA.
On aurait pu penser, avec les élections générales du 27 décembre dernier, qu'il y aurait finalement un pas vers la paix, mais il n'en est rien. Le conflit en RCA s'enlise. Comment vous l'expliquez ?
C'est curieux lorsqu'on compare la RCA avec d'autres zones de conflit qui ont nécessité un déploiement immense de moyens internationaux. On a souvent tendance à confondre les élections avec une sorte d'avancée dans le processus de paix. Les élections seules ne constituent pas forcément un moment décisif, c'est quand même un moment de divergence où des visions politiques s'affrontent et les dérapages sont souvent, surtout dans des contextes assez fragiles comme la RCA, les dérapages peuvent être programmés. Et là, en RCA, l'expérience nous a rappelé que ce n'est jamais évident d'organiser des élections dans un dans un contexte qui n'est pas vraiment post-conflit, mais qui n'est pas non plus un contexte de conflit ouvert.
Alors, j'aimerais qu'on parle un peu hein, de l'accord de paix de Khartoum. C'est un accord caduc actuellement, vu le contexte actuel en République centrafricaine?
Oui, alors l'accord de paix a déjà le mérite d'avoir été signé. Ça, il faudrait féliciter tous les acteurs. Mais l'accord de Khartoum a été signé dans un contexte très particulier et aujourd'hui, la logique qui a présidé s'avère aujourd'hui relativement malhabile. L'accord de Khartoum a rassemblé le gouvernement avec les groupes armés. Les partis politiques, par exemple, n'étaient pas impliqués dans sa négociation. La négociation vraiment était entre deux fronts, ce qui a donné une importance énorme aux porteurs d'armes, notamment aux groupes armés, qui en plus se sont avérés ne pas respecter leurs engagements. Mais de l'autre côté aussi, il n'y a pas eu véritablement de reddition des comptes.
La paix en RCA, vous y croyez, il faut toujours garder espoir, c'est toujours possible.
Paradoxalement, la paix est très possible. Je considère la RCA aujourd'hui encore en transition. C'est à la fin du deuxième mandat du président Touadéra qu'on saura combien les fruits ou les efforts portés par la communauté internationale en RCA ont pu être porteurs ou pas. Donc c'est maintenant qu'il faut investir et pas un an avant l'élection, il sera trop tard.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci aussi à Carole Assignon et Paul-Simon Randy, qui est conseiller régional principal à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria. Pour podcaster Droits et libertés, rien de plus simple. Allez voir sur dw.com/français à la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.